Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Jérémy Besset.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette deuxième émission que nous consacrons au festival de Lillehammer en Norvège où nous sommes actuellement à l'occasion de cette édition 2019 qui jusqu'à dimanche soir met les écrivains de la langue française à l'honneur en présence entre autres de Leïla Slimani, Maëlys de Kerangal, Alice Zeniter, Kamel Daoud, voire Nicolas Mathieu. C'est un festival dont l'ambition est de mettre en lumière la diversité des expressions littéraires à l'image de l'œuvre de notre invitée aujourd'hui, Werwer Linking-Nepo, écrivaine et artiste pluridisciplinaire, née au Cameroun et installée désormais en Côte d'Ivoire. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ici pour partager avec le public norvégien votre travail de poétesse, de dramaturge, mais aussi parler de votre engagement auprès de la jeunesse. Mais pour commencer, je vous propose d'écouter Ingse Skatum, traductrice, professeure émérite et responsable des études africaines à l'Université d'Oslo. Elle fait votre portrait.
Werwer Linking, c'est une vraie légende en Côte d'Ivoire et en Afrique de l'Ouest. Elle vient donc du Cameroun, mais s'est installée en 78 à Abidjan, où moi-même j'ai vécu pendant quelques années. Elle est très, très connue. Elle fait un travail remarquable, non seulement en littérature, mais aussi en musique. Elle a créé une compagnie de théâtre. Elle a créé un village où elle élève, où elle enseigne les enfants de la rue ou des orphelins. Donc, elle fait un travail d'humaniste extraordinaire. Et puis, donc, les romans et de la poésie et du théâtre et ce qu'on a fait ici, à Lillehammer, c'est donc traduire des extraits de son roman peut-être le plus connu, La mémoire amputée.
Voilà, une légende, disait de vous, Ingse Skatum, dont vous avez fait, je crois, la connaissance ici, oui, à Lillehammer, à l'occasion, comme elle le disait, de la traduction en norvégien d'une partie de votre chant roman, La mémoire amputée, dont nous allons parler dans un instant. Mais pour commencer, j'aimerais revenir avec vous sur votre parcours exceptionnel, Werwer Linking-Nepo, car très tôt, vous avez développé vos talents d'artiste. À 16 ans, vous étiez déjà chanteuse, peintre. Ensuite, très vite, vous avez écrit de la poésie, du théâtre, ensuite du roman. D'où est venue cette passion pour les arts quand vous étiez enfant et adolescente au Cameroun?
D'abord, à travers la littérature orale qui était portée par de grands aèdes dans la cour de mon grand-père, qui invitait toujours les meilleurs qui venaient raconter des épopées, qui pouvaient tenir pendant plusieurs nuits à raconter des épopées qui nous faisaient vraiment rêver. Je pense que beaucoup a dû partir de là. Et puis le reste, les rencontres. Très tôt, j'ai rencontré des gens qui faisaient de la chanson, de la guitare et tout ça. Ils m'ont entraîné. Après, j'ai rencontré des gens qui ont pensé que je pouvais être un peintre à cause de ma façon de regarder. Et tout ça, bon, m'a offert de quoi peindre et j'ai commencé à peindre. Donc, ainsi de suite, j'ai rencontré des gens qui aimaient beaucoup la poésie, qui en écrivaient. J'ai eu envie d'en écrire aussi comme un jeu. Puis je n'avais pas pensé que je serais une artiste. C'est vraiment les rencontres qui définissent parfois les chemins que nous suivons.
Donc vous avez développé tous ces arts, le chant, l'écriture, le théâtre. Et puis vous êtes partie en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'était pour des raisons professionnelles ou personnelles?
Je me suis trouvée au Mali d'abord pour des raisons personnelles, mais qui sont devenues des raisons professionnelles puisque j'ai pu y mener des recherches. J'ai publié sur les marionnettes du Mali. Je suis arrivée en Côte d'Ivoire avec l'intention de continuer pour quelques jours ou quelques semaines les recherches que j'avais faites sur le travail des femmes dans les traditions, sur leur pédagogie. J'avais travaillé avec les femmes du Djinédon au Mali. Je me suis dit que j'en rencontrerais en Côte d'Ivoire. Et puis bon, ben j'ai trouvé un travail en Côte d'Ivoire. On m'a proposé quelque chose qui m'a retenu. à partir duquel j'ai pu faire toutes les recherches qui me plaisaient. Et puis finalement, j'y suis restée.
Mmh. Alors c'est vrai que vous avez fait des expositions à Abidjan. Mmh. Vous êtes devenue chercheuse en tradition et esthétique négro-africaine à l'université. Mmh. Et puis en 1985, vous avez fondé le village Kiyimbok, qui veut dire en langue bassa, je crois, le savoir qui dépasse tout savoir. Oui. Est-ce que vous voulez bien nous rappeler, Wawelinking Nepo, quelle était au début l'idée de ce projet, qui existe toujours d'ailleurs?
Ce projet, c'était d'abord vraiment l'envie d'être professionnel dans l'art. À l'époque, il n'y avait pas de professionnel dans l'art qui ne soit pas obligé d'émigrer. On les trouvait, les professionnels africains, on les trouvait à Paris, à Londres, à Bruxelles, ou tout ça. On était obligé de s'exiler. Et moi, je n'avais pas du tout envie de ça. Je voulais voir si on pouvait être professionnel à partir de l'Afrique et rayonner à travers le monde de manière au moins aussi compétitive. Donc, au bout de 6 ans à l'université d'Abidjan, j'ai décidé de me tester en tant que professionnelle. J'avais identifié un certain nombre de problèmes. D'abord, avoir un espace où pouvoir travailler suffisamment de temps pour devenir compétitif et pouvoir faire voir ce qu'on sait faire. Et puis, j'ai trouvé des jeunes qui voulaient tenter l'aventure avec moi, mais qui n'avaient aucune formation. Donc, la formation s'est imposée. C'est pour ça que j'appelle ça souvent l'esthétique de la nécessité. C'est-à-dire, vous faites des choses au fur et à mesure de vos besoins vitaux.
Mais est-ce que c'est un village au sens propre du terme? C'est-à-dire une communauté qui s'est installée dans des maisons où certains dorment, d'autres s'entraînent aux différents métiers, en effet, du théâtre, de la marionnette?
Oui. C'est dans ce sens, les jeunes que je forme habitent généralement au village. Ils habitent là, il y en a qui s'y marient, il y en a qui font des enfants. Donc c'est un village, dans cet esprit c'est un village. Mais en fait, quand on a commencé, c'était une petite villa de quelques chambres et on habitait tous là. Et puis bon, mais on a construit d'autres cases, d'autres, et puis on a surtout construit un théâtre. On a réalisé cet idéal d'avoir nous-mêmes notre propre scène où nous pouvons travailler 18 heures si nous voulons, ou 20 heures ou moins, selon nos aspirations, selon nos élans et selon nos exigences personnelles.
Et c'est près d'Abidjan?
C'est à Abidjan, à l'échangeur de la Riviera 2.
Alors c'est un projet magnifique, pédagogique, philanthropique, artistique, politique, philosophique. J'imagine que vous n'êtes pas toute seule,
Ça, c'est sûr que je ne suis pas seule. Vous avez une équipe.
Mais du coup, avec quel argent, quels moyens? Vous avez des subventions?
Nous n'avons pas de subventions institutionnelles. Parfois, une bonne volonté nous soutient dans un projet. Là, actuellement, j'ai une formation de haut niveau à la marionnette à fil. Il y a une vingtaine de jeunes qui suivent. On a fait venir une spécialiste de la marionnette à fil. Eh bien, elle est en train de donner cette formation. Eh bien, il y a de manière ponctuelle de certaines infrastructures qui ont accepté qui de payer son transport, qui de payer les outils, etc. Mais pas, nous n'avons pas de subvention pour vivre, pour survivre et pour faire vivre notre société. Donc, nous essayons nous-mêmes au quotidien, par notre travail, parce que c'était ça le projet, pouvoir vivre de son travail artistique en Afrique. Donc, nous ne perdons pas ça de vue. Donc, quelles que soient les difficultés, nous disons que tous les autres professionnels ont les mêmes difficultés. Les médecins ont des difficultés. Les avocats ont des difficultés. Tout le monde a des difficultés pour être professionnel et gagner correctement sa vie et pouvoir faire son travail de la manière la plus satisfaisante possible pour soi-même d'abord et pour les autres ensuite.
Donc c'est l'apprentissage aussi de l'autonomie.
Oui.
Et c'est, puis
c'était vraiment ça qui était derrière l'idée et qui continue.
Et l'accompagnement de la révélation artistique.
Oui, absolument. à travers les arts, puisque moi, comme tous ceux qui m'ont accompagné, je pense à la reine mère Serel Ndjok, ma sœur, je pense à mon époux, Pape Niepo, je pense à bien d'autres jeunes, des gens qui ont accepté de rester là et de travailler, de continuer la formation, tout en essayant de faire avancer leur propre carrière.
Et en 35 ans, combien de jeunes sont passés par ce village ?
1 000 000 environ.
1 000 000 Oui. Et vous les suivez une fois qu'ils prennent leur envol
En tout cas, eux, ils ne nous oublient pas. Ils n'oublient pas de témoigner. Ça, c'est ce qui est quand même intéressant. Bon, je ne pense pas qu'ils aient encore trouvé le moyen de soutenir leur école comme on le ferait aux États-Unis. J'ai vu que aux États-Unis, en fait, si les écoles sont puissantes, c'est grâce aux gens qui en sont sortis, parce que dès qu'ils ont une carrière, ils commencent à cotiser pour que leur école continue. Mais ça, ce n'est pas encore arrivé. On rêve du jour où ça va arriver et que nos élèves penseront à faire vivre le village. Mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Néanmoins, je crois que vous avez une étudiante qui a fait carrière aux États-Unis et qui a obtenu une prestigieuse récompense.
Oui, en fait, elle n'a pas obtenu cette récompense à partir des États-Unis. Elle vivait en France et en Belgique. Et son morceau a été vraiment apprécié par India Hari, une grande qui a été interprétée et qui l'a invitée là-bas. Elle est allée poser sa voix. Et le morceau a gagné un Grammy Award.
C'est pas rien. Alors vous faites toutes ces activités de formation, d'éducation en parallèle aussi de votre travail d'artiste, dont l'écriture, à l'image donc de ce roman lyrique intitulé La mémoire amputée, qui a eu le prix Noma en 2005, et qui ici, à Lillehammer, donc, est présenté à travers le travail d'un collectif de traductrices et de traducteurs norvégiens et norvégiennes, qui ont donné une version lue par une comédienne avec vous sur scène pour interpréter un chant. Nous écoutons un extrait de cette performance.
Jeg er Halla Njoke.
Je suis Halla Njoke.
I familien har jeg fått kjælenavnet Fitini Halla.
Dans la famille, on m'appelle affectueusement Fitini Halla.
Som betyr lille Halla, for å skjelne meg fra farmor som jeg oppkalt etter, og som blir kalt store Halla eller store Madja.
Qui veut dire petite Halla, pour me distinguer de ma grand-mère paternelle, dont je suis l'homonyme et que l'on nommait grande Halla ou grand Madja.
Jeg lever i mitt 8. tiår. Jeg har endt som sanger. Jeg ble lei av å halse etter tusenvis av yrker. En tid var jeg forfatter og tenkte å fortsette med det.
Je vis sur ma 8e décennie. Je suis définitivement chanteuse, lasse de courir derrière 1000 métiers. À un moment de ma vie, je suis devenue écrivain et pensais le demeurer.
Men så ble jeg lei av å skrive til ingen nytte, ord og tegn som ingen av mine egne kunne lese.
Mais je me suis lassé d'écrire vainement des mots ou des signes qu'aucun des miens ne savait lire.
Du mister lysten til å skrive om følelser du tilsynelatende er alene om, når du stadig får høre hvor i all verden har du det fra, om det du har opplevd i hverdagen sammen med dine egne.
C'est décourageant de décrire des émotions qu'on semble seul à ressentir quand on s'entend toujours dire « Où as-tu encore été chercher ça ?» Pour ce qu'on vit au quotidien avec les siens, auprès d'eux. Mba initie dunia latigala mba koroba initie la molila walai ni la molite mogote foye lila ani la molite mogote foye. Ma mère, merci pour la vie. Grand-mère, merci surtout pour l'éducation. Car sans éducation, voilà, l'être n'est rien, lila. Et sans éducation, l'être n'est rien. Enye muda kabanankale ye. Hey, baraba. Ala yere kada kabanankaye baraye. Wini la molite, mogote fouye.
Merci. Littérature sans frontières sur RFI.
Vous êtes bien sûr RFI à l'écoute de Littérature sans frontières pour une émission spéciale à Lillehammer en Norvège où se tient un festival de littérature dont les écrivains français sont invités d'honneur cette année. Et parmi les auteurs présents, l'écrivaine et artiste originaire du Cameroun et venue de Côte d'Ivoire, Werwer Linging Nepo, à l'occasion de la présentation ici d'une traduction partielle de son chant roman La mémoire amputée, Ingse Skatum, universitaire et membre du collectif de traduction, raconte comment est née cette idée.
C'était surtout un grand plaisir. Alors, il faut dire que celui qui a pris l'initiative, c'est le plus jeune d'entre nous. Hein? Un jeune homme qui a lu, qui a traduit quelques poèmes, qui est lui-même poète, et qui dit que son écriture l'a influencé. Il est allé vers le festival, il l'a proposé, et ensuite le festival l'a proposé à l'association des traducteurs de traduire, d'avoir un séminaire de traduction. Donc on était 5, moi j'étais l'aînée, et le jeune homme là en question était donc le plus jeune, et entre les deux il y a tous les âges, et ça a été vraiment un plaisir de traduire en collectif comme ça. Chacun avait préparé la traduction. Deux extraits différents, dont un chant. On a présenté à tour de rôle nos solutions et on s'est mis d'accord sur une synthèse de ces traductions. Passionnant comme méthode.
Est-ce que ça a été une surprise pour vous, Werwer Linging Nepo, d'apprendre qu'ici, en Norvège, des traducteurs souhaitaient travailler sur ce texte?
Oui, complètement. Je ne sais même pas que mon œuvre est connue en Norvège, non. Je ne le savais pas.
C'est la première fois, donc.
C'est la première fois.
Que vous venez.
Que je viens.
Et que vous découvrez que votre travail est très connu ici et qu'il suscite des traductions.
Et en plus, ça a été proposé par un très jeune traducteur, ouais, et qui écrivait lui-même et qui est tombé amoureux de mon écriture. Il m'a dit que c'est à travers mon écriture qu'il a su qu'il aimait la littérature et qu'il voulait devenir écrivain. Donc c'est quand même extraordinaire. Et c'est lui qui a proposé, et ça a entraîné aussi, ça a rencontré des gens comme Ince qui ont fait l'Afrique et qui me connaissaient et tout ça. Donc j'étais vraiment étonnée par tant d'enthousiasme. 5 traducteurs de 3 générations différentes sur cette œuvre. Et quand on les voit travailler, la passion avec laquelle ils le font, j'étais complètement étonnée.
Si vous voulez bien, vous allez dire quelques mots sur ce texte, La mémoire amputée. Quelle est l'histoire exactement de ce roman?
C'est l'histoire d'une enfant qui est devenue femme sans savoir trop comment, qui a subi des choses qu'elle ne comprenait pas, qui sont inacceptables, dont elle a choisi de tirer que du positif dans tout ce qui lui est arrivé, et ce qui lui a permis de transcender ça et de devenir une très très belle personne et de rencontrer des gens qui sont devenus des modèles pour elle. Je pense que surtout dans la vie, ce qui est important, c'est quand on trouve son bonheur à travers d'autres humains.
Alors, ce n'est pas un roman autobiographique, mais Ala est une jeune fille qui doit se battre. Comme vous, vous avez dû vous battre, certainement. Quel a été votre plus grand obstacle?
Je pense que l'obstacle, c'est souvent nos propres limites. Moi, je n'ai jamais considéré que quelqu'un était un obstacle sur ma route. C'est toujours ma propre limite. Vous savez que je suis une autodidacte depuis l'enfance. J'ai fait l'école primaire en 3 ans et tout le reste, j'ai dû l'apprendre seule et jusqu'à enseigner et à être enseignée dans des universités. Donc, en général, je suis une personne extrêmement curieuse et j'écoute beaucoup et je regarde beaucoup pour pouvoir comprendre et apprendre. Et dans ce genre de cas, je ne considère pas que la moindre preuve soit un obstacle, mais plutôt un strapontin, si on veut, une route possible dont il faut trouver le moyen de traverser, d'aider à défricher davantage, c'est possible.
Néanmoins, c'est le trajet d'une jeune femme ici qui doit se battre, ce qui est le cas pour beaucoup de femmes sur le continent africain, mais dans le monde entier. Donc, ça reste un livre néanmoins féministe à travers ce témoignage qui veut exprimer aussi une parole après des siècles de silence, encourager l'indépendance des unes et des autres, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Cameroun, sur le continent et partout. C'est bien aussi un roman qui fait l'éloge de la femme.
Oui. C'est parce que les femmes, surtout les Africaines, moi je pense que personne ne sait encore jusqu'à quel point les Africaines tiennent l'Afrique. Et ont permis que malgré tous ces siècles, que l'Afrique soit quand même, après avoir été le berceau de l'humanité, qu'on l'ait traité de poubelle de l'humanité, qu'aujourd'hui tout le monde commence à reconnaître que c'est le futur de l'humanité. Il y a encore beaucoup à découvrir pour l'humanité à travers l'expérience des femmes africaines, d'après moi. Et donc, oui, j'ai voulu rendre hommage à certaines d'entre elles qui m'ont aidée, dont je me suis servie comme modèle moi-même pour avancer, mais dont j'ai aussi profité pour trouver des modèles pour mon personnage Halan Djoké dans le roman.
Donc vous aussi, vous avez eu des mentors femmes?
Oui, beaucoup.
Plus que des mentors hommes?
Oui, plus que des mentors hommes. J'ai eu mon grand-père qui était vraiment mon mentor homme idéal. Et puis les autres, c'était surtout des femmes. Ma grand-mère, certaines tantes et d'autres femmes que j'ai rencontrées. Et puis aussi, mon premier époux a été quand même un grand regard. Mais c'est surtout les femmes et même celles que j'ai rencontrées sur ma route qui m'ont accompagnée, comme ma sœur et amie Marie-Josée Ourantier, qui a enseigné mon œuvre pendant longtemps et qui m'a vraiment fait croire en moi-même et tout ça. Donc j'ai rencontré beaucoup de femmes qui ont beaucoup fait sur ma route.
Et ici, depuis que vous êtes à Lillehammer, en Norvège, même si c'est un séjour bref, est-ce que vous avez eu des témoignages de femmes qui sont venues vous voir en disant « Oui, on se reconnaît nous aussi dans ces combats-là »
Inse et les trois femmes qui font partie de ce collectif, elles m'ont dit des choses vraiment très touchantes, quoi. Et ça me fait plaisir, et ça me donne du courage d'écrire, parce que quand on est en train d'écrire, on est seul, hein, on ne sait pas comment les gens vont percevoir ça dans leur traduction, la tension qu'elles portent aux mots, à chacun des mots que j'utilise et qui les touchent de manière différente, parce qu'elles sont quand même de trois générations, toutes les trois. Eh bien, vraiment, c'était, oui, c'est une très, très, très belle aventure.
Et en même temps, depuis ce livre qui a été écrit en 2004, vous vous êtes un peu, Werwelinging Nepo, éloigné de l'écriture romanesque, un peu peut-être à l'image de cette citation au début du roman où votre personnage dit « À un moment de ma vie, je suis devenu écrivain et pensais le demeurer, mais je me suis lassé d'écrire vainement des mots ou des signes qu'aucun des miens ne savait lire. » Est-ce que c'est une des raisons pour lesquelles vous écrivez moins ces dernières années, ou vous publiez moins en tout cas?
J'ai écrit, je continue à écrire, mais sans chercher à publier.
Pourquoi?
Bah ouais, parce que les livres d'abord, j'en ai écrit, j'ai jamais vu quoi que ce soit venir. Je suis même étonnée que mon écriture soit étudiée dans autant d'universités. Aux États-Unis, c'est sur plusieurs dizaines d'universités où on enseigne mon œuvre. Maintenant, de plus en plus en Afrique et ailleurs, mais on ne trouve pas mes livres. Par exemple, ici, ils avaient deux exemplaires, un dans une bibliothèque et un autre, et ils ne pouvaient même pas les trouver sur Amazon et tout ça, on ne sait pas pourquoi.
Alors, on ne peut pas trouver vos livres. Pourquoi? Parce que ils ne sont pas assez bien diffusés en dehors de la Côte d'Ivoire, parce que les éditeurs ivoiriens n'ont pas les moyens de diffuser vos livres. C'est lié à quoi, alors?
La mémoire amputée a été éditée par les nouvelles éditions ivoiriennes en Côte d'Ivoire, mais ça a quand même tourné, ça. Mais j'ai publié d'abord en France. Mes premiers textes ont été publiés en France, mais on ne les trouvait nulle part. Donc, chacun a son destin.
Qu'est-ce qu'il faudrait faire, selon vous? Est-ce qu'il faudrait que les éditeurs aient des subventions? Comment résoudre ce problème? Puisque en effet, il y a quand même ce paradoxe que vous êtes étudié aux États-Unis, ici traduite en Norvège, mais si on trouve pas vos livres, c'est un problème.
Ouais, j'ai publié un roman qui est vraiment mondialement connu. Je veux dire, il est enseigné aussi bien en Europe, dans plusieurs universités, traduit en plusieurs langues ici en Europe et en américain. Mais l'éditeur dit qu'il n'en a pas vendu, donc il m'a jamais donné de droit d'auteur. J'ai jamais touché un droit d'auteur dans cette maison d'édition. Je vais pas la citer ici pour ne pas donner l'impression de vouloir la dénigrer. Mais c'est incroyable quand même. Et ce livre, il est connu. Il y a au moins une trentaine de doctorants qui ont travaillé.
De quel titre vous parlez ?
Je parle du journal d'une mise au vire. Elle sera de Jaspe de Corail, par exemple.
Qui est devenu donc un classique à l'université.
Qui est devenu un classique dans les universités. Il y a des centaines de docteurs jeunes en Afrique, aux États-Unis, ici en Europe, qui ont fait leur thèse, leur maîtrise, etc. sur ces textes-là. Mais c'est compliqué. C'est compliqué. Nos maisons d'édition ne sont pas suffisamment équipées pour diffuser de manière suffisante. Mais en Côte d'Ivoire, quand même, beaucoup d'efforts sont faits par les maisons d'édition. Et vous voyez que nous avons maintenant le SILA qui prend de l'envergure. Et vraiment, les éditeurs viennent d'un peu partout en Afrique maintenant, au SILA, à Abidjan, Salon international du livre d'Abidjan, pour montrer leurs produits, pour échanger des expériences. C'était vraiment, cette édition était particulièrement intéressante à ce niveau-là. Donc, c'est un salon qui va en progressant tout le temps. Nous pensons que les choses vont se faire. Mais nous qui avons été un peu les pionnières, hein, dans certains domaines et qui n'avons pas voulu nous exiler, nous installer en Europe pour pouvoir bénéficier de tout ce qui existe déjà dans ce genre de cas, eh bien, on paye le prix fort. Et c'est vraiment, je pense qu'il faut que nos œuvres aient été quand même assez fortes dans leur genre pour pouvoir se faire remarquer.
Et la preuve en est ici à Lillehammer, puisque la force de votre écriture à dépasser les problèmes de diffusion et bien arriver ici jusqu'en Norvège, oui. Et va donner lieu à une traduction norvégienne très certainement.
Oui, des extraits, mais déjà à la fin de l'atelier, ils avaient décidé qu'ils vont traduire tout le roman et le publier. Donc vraiment, on dit Dieu merci quoi.
Quelle bonne nouvelle. Ouais. Merci beaucoup Wavalink Ndepo d'avoir participé à cette émission ici à Lillehammer en Norvège où vous êtes une des invitées d'honneur pour parler de vos œuvres littéraires, poétiques et des spectacles vivants et puis de ce magnifique village que vous avez initié dans les années 80. Et donc pour ceux qui voudraient lire La mémoire amputée, je rappelle que ce livre qui a donc obtenu le prix Noma en 2005 a été publié
par les éditions Nei, maintenant, mais qui ont fusionné avec une autre maison d'édition qui s'appelle Seda. Donc, on tape sur Nei Seda et on peut avoir accès à Nei, N-E-I, et Seda avec C-E-D-A. Nei Seda. Voilà.
Voilà, tout est dit. Merci beaucoup.
C'est moi.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.